Lorsqu'il arrive au parc par la rue de l'étang, Thibaut s'arrange toujours pour garer sa voiture de telle sorte qu'il puisse voir le château à travers son pare-brise. Une fois le moteur éteint, il reste assis quelques minutes derrière son volant, le regard fixé sur les formes abstraites, courbes et changeantes, apparaissant sur le flanc est du bâtiment. Ce samedi-là, après avoir arpenté sans conviction les galeries miroitantes du centre commercial et effectué quelques achats alimentaires à l'hypermarché, il sort non sans peine du parking bondé avant d'accéder au rond-point Salvateur, puis de se diriger vers la campagne toute proche. Respirer le bon air, enfin. Arpenter les allées du parc menant à la forêt. Fouler sans risque de réprimande la pelouse généreuse du jardin à l'anglaise. Embrasser d'un regard en panoramique les arbres majestueux qui y sont plantés. Surplomber le jardin à la française et s'amuser, de là-haut, de la disparition des trois bassins. Thibaut ne tarde pas à déchanter lorsque, contraint de ralentir puis de stopper, il se retrouve bloqué par une longue file de véhicules semblant tous vouloir se rendre au parc, rapport au clignotant allumé à gauche. Un embouteillage dans la rue de l'étang. Sur la 104, il veut bien, c'est son quotidien, mais à Rantilly, ça c'est trop fort. Un imposant car à deux étages s'arrête derrière lui. Il n'a pas avancé d'un pouce, comme c'est rageant. Allez, calme-toi, c'est le week-end, tu n'es pas en retard. Sois patient, écoute de la musique. Le concerto pour deux violons et orchestre de Jean-Sébastien Bach répand ses ondes apaisantes dans l'habitacle. Thibaut avance lentement, pénètre enfin sur le parking. Devant lui, la silhouette géométrique rassurante parée de ces images kaléidoscopiques. Il y est, tout va bien. Par contre, évidemment, impossible de se garer à l'endroit où il en a l'habitude. Thibaut remonte l'allée rectiligne couverte de gravier blanc et trouve une place près de la sortie. Il n'y en a plus que quelques-unes. Il était temps. La vue uniforme sur le mur d'enceinte le chagrine un peu. Tant pis, il reviendra. Il met son blouson puis se saisit du sac de course, descend et claque doucement la portière avant de verrouiller sa voiture. Tout juste midi, les cloches sonnent à la volée depuis Bussy-Saint-Martin. Il faut faire vite maintenant, il ne veut surtout pas rater son rendez-vous. L'avenant chat, rouquin au collier rouge et à la queue annelée, l'attendra juché sur un banc, toujours le même. Ils partageront leur repas. Ils deviseront sur le monde, ils seront tendres l'un envers l'autre, puis chacun rentrera chez soi.
Dans les bras du cèdre, je me suis allongée, sous l'œil de l'écureuil. Du haut de la butte, nous nous sommes laissés rouler jusqu'en bas. L'horrible bâtiment en béton pour stocker les voitures a été enfin détruit, mais le bruit des voitures qui passent sur l'autoroute demeure, comme un fantôme. Après la tempête, les arbres survivants ont rempli l'espace.
Pépiment des oiseaux au lever du jour, allant crescendo jusqu'à remplir l'espace. Frombissement d'un avion au-dessus de nos têtes, recouvrant un moment toute manifestation de la nature. Va-et-vient des voitures dans les allées du parking, moteur ronronnant, crissement des pneus sur le gravier, claquement des portières. Cris joyeux des enfants s'ébattant dans l'herbe, jeux de ballon, cache-cache, chat perché, chat glacé, aboiement des toutous décrochés de leur laisse, lancés de bâtons rapportés fièrement, sifflement, compliment des maîtres.
Comme d'habitude, je suis en retard. Ils sont déjà rentrés dans le musée. Pendant ce temps, je vais faire un tour du parc en les attendant puisque j'ai déjà vu l'expo. Incroyable ce parc. Les arbres sont tellement grands que les promeneurs ressemblent à des petits enfants. Une échelle pareille au dessin sépia de paysages anciens. Je regarde ce lointain et imagine ce qu'en feraient ces peintres avec ces arbres en ocre. Quelques pas sur l'allée, au détour de la masse feuillue d'un charme, une immense souche de 2 mètres de diamètre coupée à hauteur d'homme interroge le vert tendre de la prairie. Ce doit être un séquoia, me dis-je en m'approchant de cette surface coupée nette. Il y a une cartographie du temps de l'arbre qui m'entraîne en survol sur des crevasses et tracés comme s'il m'évoquait son pays d'Amérique. Canyons profonds se superposent avec mes souvenirs de l'immensité de ces paysages extraordinaires contenus dans l'ultime don de l'arbre. Je suis là-bas, dans l'intense chaleur, au point que je pourrais refaire les mêmes photos du Grand Canyon sur ce tronc sépia. Le téléphone soudain me ramène d'un voyage immobile de quelques instants. Une dizaine de pots fleurissent la terrasse surplombant le jardin. Des marches de pierre plongent dans le gazon entouré de rosiers. Entouré des pots alignés sur un muret, s'ouvrent sur un chemin d'herbe entouré d'arbres fruitiers. Une plateforme de rosiers buissons avec un banc tourné vers le haut du jardin. Plus bas, un carré de salade avec d'énormes rhubarbes près du laurier foncé contre le vieux mur. Les grands arbres du fond projettent leur ombre mouvante dans les cris des pies traversées d'abeilles. Le vent à travers les grands séquoias comme un son parasite faiblement venu d'étoiles. Les mouvements continus des feuilles de tremble applaudissent le matin. La rumeur lointaine de l'acate, mélangée à celui des feuilles mortes encore frémissantes.
À la grille du parc de Rantilly, ce matin-là, m'attendaient des petits fans, surpris comme moi. Assise sur le banc du parc de Rantilly, soudain m'est apparu le lapin d'Alice qui courait. Vers quel rendez-vous ? Mais à Rantilly, mes pas m'ont guidé vers de toutes petites taches blanches. Un arbre à mouchoir que je n'avais jamais remarqué auparavant. Sur le chemin du retour, arrêt à Rantilly, vision de la souche, l'arbre est mort. J'y reviendrai souvent voir sa couleur changer au fil des saisons. Ce matin-là, dans le parc, je n'ai vu que la feuille rousse sur laquelle s'étaient posées des perles de rosée. Au musée de Rantilly, un après-midi, le tableau le plus beau, l'arbre calligraphe. Se ressourcer après le voyage à Paris, oublier le stress, soudain humer l'air léger du parc. Attiré par le parfum des jasmins qui forme un coussin bleu vert lumineux, pèlerinage de printemps dans la forêt de mon enfance, apparition de morilles cachées sous les feuilles brunes, un tapis de jonquilles. Mais tout s'efface. Blanc immaculé, je m'enfonce dans la neige, ce blanc m'anesthésie. Le soleil disparaît. Où suis-je ? Je ne reconnais rien, j'ai froid. Un soleil brûlant, une chaleur lourde perce sous les branches, je transpire, mes pieds roulent sur les roches sèches. Quand arriverai-je au sommet ? L'orage menace, mes pieds glissent. Le sol est raviné par les averses d'automne, pluie d'or. Les feuilles mortes me montrent le chemin. Douce mousse, la sapinière, son tapis d'aiguilles. Les feuilles d'érable rouges sur les mousses vertes du mont Koya. Bleu lumineux du ciel, la forêt de bambou. Et la neige, tel un manteau sur le mont Fuji. Fin du voyage.
La pluie livre ses perles translucides sur les feuillages encore persistants. Créant une mélodie particulière, née d'un xylophone géant aux sonorités infinies. Les fûts majestueux, animés par des vents malins, accueillent le visiteur par leurs craquements, à la fois sinistres et bienveillants. Le lierre ceint patiemment le tronc des végétaux. Il s'insinue tel un reptile à l'affût, sournois, mène son œuvre de colonisation et n'épargne ni les frêles arbustes, ni les frondaisons centenaires. Ses spirales infernales garrottent ses victimes jusqu'à l'asphyxie, semant sur leur passage le chaos et la désolation. Mais le lierre ébauche également un paysage romantique et fascinant, qui invite le promeneur solitaire à la rêverie. Je chemine, pensif et paisible, sur un long tapis de feuilles, reflets mordorés de porphyre. Au loin, résonnent les échos d'un vol d'oie sauvage à la géométrie parfaite et la frappe alternée du piquet-pêche sur les fûts majestueux. Les pies, en quête d'habitat, font régner la terreur parmi les volatiles et percent le silence ambiant de leurs jacassements entêtants. Je m'installe sous un chêne afin de m'accorder un instant de détente. Tandis que le crépuscule enveloppe progressivement le domaine, les derniers visiteurs regagnent la sortie. L'attention est soudainement attirée par un phénomène singulier. Je vise un promeneur non loin de moi qui disparaît derrière un platane centenaire. Je prolonge encore un temps ma réflexion, entouré progressivement par les ténèbres naissantes, trouvant curieux que le promeneur ne réapparaisse pas. Intrigué, je me rends au pied du platane, la circonférence impressionnante. À mon grand étonnement, je constate que la base du tronc est largement béante et laisse entrevoir une cicatrice profonde comme un impact de foudre. J'entre alors à tâtons dans le large orifice, stupéfié et inquiet à la fois. J'arpente péniblement la cavité et au bout de quelques mètres, je perçois les échos d'une musique aux résonances d'orgue. Une pâle lumière enveloppe la silhouette d'un individu, mon promeneur semble-t-il. Assis à un clavier, il se contorsionne au rythme des accents musicaux qu'il tente d'agencer. Je m'approche davantage et à cet instant, l'organiste entame la coda. Puis, de manière soudaine, lui et son instrument disparaissent à ma vue. Interloqué, je me résous néanmoins à remonter le couloir ténébreux afin de retrouver l'air libre. Un craquement de branches se produit et je me réveille.